dans la perspective aussi de nos formations, on a l'habitude plutôt d'inviter des sociolinguistes, des didacticiens de langues maternelles, de langues étrangères. Il nous est apparu vraiment important de pouvoir se déplacer, avoir un apport anthropologique. Et je prendrai une citation de François Laplantine qui m'a marquée. « La différence des perspectives permet de faire varier la perception. » Donc, nous entrons en anthropologie grâce à vous. Merci.
Bon, je voudrais d'abord remercier Marie-Odile Mersandos pour cette invitation. Je suis heureux d'être avec vous ce matin pour tenter de répondre à certaines de vos préoccupations. Je vais d'emblée introduire deux notions pour comprendre ce que nous appelons métissage. La première notion, c'est celle de processus, et la deuxième, c'est celle de multiple. Le métissage, ce n'est pas un objet, c'est un processus. Un objet peut être cerné, identifié, fixé, stabilisé, arrêté, défini, ce qui n'est pas le cas d'un processus. Métissage, c'est un processus né de la rencontre. La rencontre d'individus, de cultures, de langues, c'est un processus né de l'événement, la rencontre. Nous ne pouvons pas dire du métissage qu'il est ceci ou cela, parce que ça serait l'arrêter, l'essentialiser, parce qu'il se transforme continuellement, il advient, il survient, il devient, il apparaît, il disparaît, il transparaît, et quand il survient... Ce qui est plutôt rare, vous allez le voir, dans ma perspective, c'est à notre insu. C'est inconscient. C'est-à-dire on ne peut pas penser qu'on va créer du métissage. Hein. Ce serait le plus sûr moyen de se tromper. C'est une rencontre involontaire. Et la deuxième notion, c'est la notion de multiple, de multiplicité. Métissage, c'est le contraire de l'unité, de l'uniformité, de ce qui est compact et complet. Ça s'oppose, ça résiste à ce qu'on appelle aujourd'hui mondialisation, lorsque la mondialisation est conçue comme dissolution des différences. Métissage suppose le multiple. Alors on a une notion... qui est à la mode, c'est un terme qui est utilisé par une idéologie journalistique et publicitaire pour désigner des manifestations musicales, des formes d'habillement, des produits gastronomiques aux saveurs réputées épicées. C'est un mot qui est un peu à toutes les sauces, et qui est prononcé chaque fois qu'il est question... du thème vague de la rencontre qui consisterait simplement à mélanger des éléments épars. Et alors ce qui est obtenu, c'est du bric-à-brac, du kitsch, du patchwork, du melting pot, de l'espéranto, du new age. C'est l'empilement, l'accumulation, la profusion, la fusion dans une totalité homogène, indifférenciée, c'est pas très intéressant. Si vous mélangez toutes les couleurs, vous obtenez du gris. Si vous mélangez tous les sons, vous obtenez du bruit. Ainsi, le métissage, quand on le conçoit comme ça, c'est pas une pensée. C'est l'idéologie de la mondialisation, lorsque la mondialisation est considérée comme résolution euphorique des contradictions. Je vais donc proposer une réflexion sur le métissage, faut toujours dire sur les métissages, qui suscitent aujourd'hui un malentendu. Parce qu'on confond métissage et son contraire, c'est-à-dire syncrétisme, osmose, mélange, dissolution des éléments dans une totalité. Et c'est lorsque l'on parle des Amériques latines et des Caraïbes que cette confusion est portée à son comble. Confusion avec l'hédonisme, avec la jubilation solaire, avec le plaisir gourmand du foisonnement baroque. On confond le métissage avec la célébration enchantée du paradis tropical dont on a affublé les Caraïbes et le Brésil. Alors, je voudrais proposer contre cette idéologie ethnocentrique qui procède d'un éloge facile et qui ne fait que révéler une extrême indigence théorique, une pensée métisse, qui est d'abord une pensée de la désappropriation. Pour penser le métissage, il nous faut renoncer à la logique de la totalité, de la totalisation, de l'identité, en quelque sorte rassasiée. Il nous faut renoncer au triomphe de l'avoir et de la propriété et effectuer une expérience du dessaisissement, du renoncement. Il y a de la souffrance dans les processus de métissage. Il y a de la souffrance dans les individus qui eux-mêmes sont biologiquement métis. Donc je vais proposer l'idée d'une pensée métisse, d'une esthétique métisse, d'une éthique. C'est-à-dire essayer de transformer la notion non pas en concept, parce que ça serait trop prétentieux, et dans le métissage, il y a du décept, de la déception, de la défection. On va partir de la constatation suivante. Le métissage a toujours existé historiquement sur fond d'anti-métissage, comme le voyage sur fond de sédentarité, comme la découverte du multiple à partir du même. Qu'est-ce que j'appelle anti-métissage ? C'est la pensée dominante qui se crédite d'être fondée sur les catégories d'identité, de stabilité, d'antériorité, qui privilégie la pureté, l'ordre et l'origine. La plupart des sociétés reposent sur le refus du métissage. Même dans ces Amériques qualifiées de métisses, dans ces sociétés, comme dit Édouard Glissant, non pas ataviques mais composites, qui sont des sociétés formées dans le système raciste et paternaliste des plantations à partir de la rencontre des maîtres et des esclaves africains, dans ces sociétés, les Blancs ont massivement refusé au cours de l'histoire la composante noire de la société et ont entretenu une véritable obsession chromatique, une véritable phobie de la couleur noire qui a donné lieu à la constitution de nombreuses échelles de couleurs allant du blanc le plus clair au noir le plus foncé. Alors, il y en a presque une centaine de mots au Brésil et dans les Caraïbes pour désigner ces graduations. La société brésilienne, qui est la société que je connais le mieux, produit, valorise, mais aussi réprime le métissage. Néanmoins, c'est l'une des sociétés les plus métisses du monde, avec le Japon. Je vous parlerai tout à l'heure du Japon. C'est une des sociétés les plus métisses du monde. Qu'est-ce que j'entends par là ? Métisse, c'est la reconnaissance de l'autre en nous et pas à côté. Hein ? Comme dans le multiculturalisme, c'est l'acceptation de la multiplicité, non pas comme fragilité provisoire, mais comme valeur constituante. Si je devais donner une définition provisoire, mais ce à quoi je répugne beaucoup, une définition, parce que définir, c'est en finir avec. Je dirais que le métissage, c'est le processus dans lequel le devenir vers lequel on va l'emporte sur l'origine d'où l'on vient. Et ce qui s'est passé au sud du continent américain est très différent de ce qui s'est passé au nord. Cortés, au Mexique, qui prend pour maîtresse une indigène qui s'appelle Donna Maria, qui est une traductrice exceptionnelle, ouvre la voie au métissage, qui n'est ni confusion, ni séparation, mais traduction. Et aujourd'hui, je tiens plus tellement au mot métissage. Si on pouvait le remplacer par traduction, vous allez comprendre pourquoi, je trouve que ça serait plus pertinent. Ce qui fait obstacle à la compréhension des processus de métissage, c'est que pratiquement toutes les épistémologies dont se réclament les sciences humaines sont des épistémologies de la séparation. Et il existe une autre forme. Bon, épistémologie, j'espère que ça ne vous fait pas peur, théorie de la connaissance. Il existe une autre forme d'épistémologie que j'appelle épistémologie de la traduction. Souvent, on pense scientifiquement et d'abord politiquement qu'il n'y a que deux positions. La position différentialiste du multiculturalisme radical qui renvoie les groupes à leurs origines. Et alors, j'étais il y a quelques jours au Québec, et alors les étrangers doivent rester des étrangers. Et la position inverse que nous appelons en France républicaine, qui a été très très bien exprimée par un homme politique qui s'appelle Jean-Pierre Chevènement, qui est l'intégration à la française, la dissolution des singularités dans la fusion. Or, le métissage contredit précisément cette polarité homogène, hétérogène et s'offre comme une autre voie à la fois à la fusion totalisante de l'homogène qui consiste à dire tous français hein, et tous français de la même manière. Et à l'inverse, la fragmentation différentialiste de l'hétérogène, ce qu'on appelle aux États-Unis le pentagone ethnique. Vous savez que jusqu'à il y a quelques années, jusqu'à Obama, dans les recensements fédéraux aux États-Unis, les gens devaient obligatoirement se classer dans 5 catégories: white, hispanic, black, asiatique, indien. Il n'y avait pas de case. Hein. Il n'y avait pas de case pour dire non, on est l'un et l'autre. Alors, seulement, il ne faut pas simplifier la société des États-Unis parce qu'elle articule une conception civique de la nation et une conception ethnique de la culture. Or, évidemment, en France, nous n'avons pas une conception ethnique de la culture. On peut dire qu'il y a un constat et non pas une revendication métisse, la condition humaine est faite de rencontres, de naissance de quelque chose ou de quelqu'un de différent qui n'était pas contenu dans les termes préalables en présence. Dans ce sens, nous n'avons pas d'autre choix que d'être métisses. Nous naissons d'un père et d'une mère et nous sommes différents de chacun d'eux. Et paradoxalement, le métissage n'a jamais été pensé comme tel. Et c'est pourquoi la pensée que je vous propose est une pensée minoritaire. Est une pensée, comme dit Gilles Deleuze, sur le mode mineur. C'est une pensée qui a été occultée en Europe pendant une longue période de l'histoire qui va de Platon à Nietzsche, avec des exceptions. Giordano Bruno, brûlé pour avoir défendu la pluralité des mondes, Averroès, Rabelais, Erasme, Montaigne, Diderot. Le métissage, c'est une pensée minoritaire parce que il s'agit d'un processus fragile, évanescent, qui est celui de la dynamique de la rencontre de l'entre-deux. De l'entre-deux, vous voyez ? On n'est ni l'un ni l'autre, on est entre eux-deux. Entre deux. C'est un processus de l'intermittence, de l'intervalle qui appelle des intermédiaires. Il se pourrait bien que vous soyez ces intermédiaires et qui appelle une activité qui s'appelle l'interprétation. Et cette pensée, elle est sans cesse menacée de deux côtés. D'un côté, par la logique identitaire de la disjonction, de l'exclusion. Je peux nommer ces séparations, les malades et ceux qui sont en bonne santé, les autochtones et les étrangers, les noirs et les blancs, plus exactement les noirs ou les blancs, les hommes ou les femmes, et surtout les noirs avec les noirs, les femmes avec les femmes, les pingouins avec les pingouins. Donc, il y a cette logique de la disjonction, et puis il y a à l'inverse la logique de la conjonction gloutonne, vorace, attrape-tout, qui préconise l'indivision. L'indivision, c'est-à-dire deux en un. Or, le métissage, ce n'est pas le syncrétisme, ce n'est pas l'empilement, l'accumulation capitaliste. Ça n'a rien à voir avec le plaisir, l'appropriation, alors qu'il y a surtout du conflit et de la tension. Et je prends un premier exemple dans les Amériques latines et dans les Caraïbes. Vous allez comprendre pourquoi il y a du conflit, de la tension, de la souffrance pour ceux qui sont métisses. Pourquoi ? Parce qu'une partie de soi participe de la couleur et de la culture des descendants des esclaves, et une autre partie de soi participe de la couleur et de la culture des descendants des maîtres. Donc une partie de soi est marquée chromatiquement par une trace d'infamie qui est susceptible de réactualiser de la révolte ou de la honte. Alors que l'autre partie de soi, blanche, est marquée chromatiquement par une trace de domination et est susceptible de faire ressurgir de la culpabilité. J'aime bien la phrase d'Octavio Paz, que vous connaissez sans doute. Il dit « Dans chaque Mexicain, il y a une partie aztèque de soi qui n'arrête pas de se chamailler avec la partie espagnole. » Je voudrais que nous interrogions le trait d'union afro-américain, afro-brésilien, afro-colombien et les métissages afro-américains. Ce n'est pas l'un ou l'autre dans l'alternative, mais ce n'est pas non plus l'un ni l'autre dans une totalité compacte et indifférenciée. C'est l'un et l'autre dans l'alternance. C'est une oscillation dans la double culture. Afro-américain, c'est une espèce de bilinguisme. Ce n'est pas la fusion de deux cultures, mais ce n'est pas non plus la résolution dans la coexistence. Il n'y a pas d'identité afro dans les personnalités afro-américaines que j'ai rencontrées notamment en étudiant la religion du candomblé au Brésil. Il n'y a pas d'identité afro, mais un sentiment qui peut se réveiller, qui peut s'exacerber dans certaines circonstances, et notamment dans des circonstances de racisme. Vous voyez, l'individu va se sentir afro. Le sentiment afro-brésilien, c'est un sentiment intermittent. C'est un sentiment à éclipse qui permet de jouer d'une manière malicieuse sur au moins deux registres de la société. Le sentiment afro-américain évolue entre l'apparaître et le disparaître. Ce n'est pas l'un ou l'autre, afro ou brésilien, ce n'est pas l'un et l'autre dans la coexistence parfaite, c'est l'un et l'autre selon les circonstances et les situations, l'un ne devenant pas l'autre, ni l'autre ne se résorbant dans l'un. Eh bien, c'est ce qui existe aussi dans ce qu'on a appelé il y a quelques années ici la culture beurre, c'est-à-dire la culture des jeunes Français issus des immigrations maghrébines. C'est aussi une oscillation dans la double culture, et non la fusion de deux cultures, ni de deux langues. On n'est pas à la fois arabe et français, dans une totalité compacte et indifférenciée. On n'est pas non plus arabe ou français. L'arabité ou l'appartenance à la France seulement, mais dans l'alternance. Donc je dis qu'il n'y a pas d'identité arabe dans les personnalités métisses issues des immigrations maghrébines. Il y a un sentiment intermittent qui permet de jouer aussi sur deux registres de la société. D'accord ? Et alors là, cela nous renvoie historiquement à un phénomène que je suis obligé d'évoquer, qui est le maranisme. Est-ce que le terme vous est familier ou étranger ? Le maranisme, qu'on appelle au Brésil Christos Novos, nouveau chrétien. ce sont les Juifs convertis de force au christianisme pendant l'Inquisition. Montaigne, Spinoza, Sainte Thérèse d'Avila étaient maranes. Plus proche de nous, Jacques Derrida, Edgar Morin sont maranes. C'est une culture duale de la duplicité. Mais c'est ici que je propose de distinguer deux notions, ambiguïté et ambivalence. L'ambivalence, c'est en même temps, à la fois, simultanément, ce qui rend impossible l'action. Vous voyez, quand vous avez deux injonctions qui arrivent en même temps, vous pouvez rien faire. L'ambiguïté, c'est simultanément. Excusez-moi, l'ambiguïté, c'est successivement. C'est successivement. Et pour revenir à cette culture juive européenne, c'est ce que Walter Benjamin a appelé la figure du juif non-juif. On n'est pas juif et non-juif en même temps. Mais dans la successivité. Alors, je prends l'exemple de Kafka. Les textes de Kafka sont des textes du refus de l'intégration totale des Juifs assimilés de l'Europe centrale. Les textes de Kafka, ce sont des textes de l'impossibilité d'être totalement juif. Ça veut dire, juif et non-juif ne s'accordent pas, s'accorder au sens musical de l'harmonie. Entre juif et non-juif, il n'y a pas accord, mais il y a écart. Le métissage, c'est le contraire de l'uniformité, de la conjonction uniformisante du « et », mais aussi de la disjonction du « ou ». Dans un processus de métissage, il y a du multiple. Et alors, je vais prendre l'exemple de la plus grande des multiplications qui a existé dans le domaine littéraire, c'est ce que Fernando Pessoa appelle l'hétéronymie. La démultiplication hétéronymique des personnages chez Fernando Pessoa, qui a créé 72 auteurs, dont Fernando Pessoa n'est que l'un d'eux. Vous voyez ? Il s'est dédoublé 72 fois. C'est très, très difficile. Hein. Je ne vous conseille pas hein, pour la santé mentale. Il est alternativement Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Alvaro de Campos. Fernando Pessoa n'est que l'un des auteurs d'une constellation. Je prends un autre exemple au cinéma. Ça me frappe. Vous connaissez sans doute ça. Ces films très anciens des Marx Brothers. Chez les Marx Brothers, il y a un empilement de gags. Vous voyez, il y a une accumulation de gags. Alors que chez Buster Keaton, qui est de la même époque, on est dans une transformation permanente. Chez Buster Keaton, il y a un processus de métissage qu'il n'y a pas chez les Marx Brothers. Pour comprendre ce que je suis en train de vous dire, je vais vous rappeler deux phrases que vous connaissez sans doute. L'une de Montaigne, l'autre de Rimbaud. Montaigne écrit « Il y a du moi dans l'autre et de l'autre dans le moi ». Ça ne veut pas dire « je suis différent des autres ». Ça veut dire « je suis autre que moi ». Vous voyez ? Je peux devenir autre que ce que je suis. Et la seconde phrase, c'est bien sûr Rimbaud. « Je est un autre, je est un autre, implique que l'autre puisse devenir je, et que je puisse devenir autre que moi. Une écriture métisse est toujours travaillée, au sens freudien, par de l'autre. L'autre de la langue d'origine, ce qu'on a appelé dans ce gros livre l'outre-langue, en résonance à l'outre-mer. C'est Proust qui disait « Les plus beaux livres sont toujours écrits dans une sorte de langue étrangère. » Et dans le métissage, il s'agit de faire varier la langue. C'est pas résolutif, c'est au contraire très perturbateur d'une identité fixée. Alors je vais vous parler, j'ai commencé à évoquer quelques points qui concernent les Amériques latines et les Caraïbes, je vais parler de l'Europe. Une partie de l'étrangeté de l'Europe, c'est qu'elle ne se réduit pas à son hellénité, c'est-à-dire à la conception grecque de la raison. L'Europe, c'est un continent étrange parce qu'il oscille entre la Grèce et la Bible dans sa formation. Mais la Grèce n'est jamais seulement grecque. Il y a quelque chose qui la déborde et qui vient d'Asie par l'intermédiaire de l'Égypte. Nous sommes dans une oscillation dans la constitution de l'Europe entre Grèce, grec, hébreu, latin, romain, arabe. Et je voudrais attirer votre attention sur le rôle qu'a exercé Rome dans la constitution de l'Europe. Rome, contrairement à Athènes, n'est pas fondatrice, mais transmettrice, traductrice. Rome nous arrache à l'autochtonie et assure une relation de secondarité par rapport à une double origine, grecque et hébraïque. Rome est transmettrice d'une culture qu'elle n'a pas inventée. Une grande partie de ce qui se forme en Europe à travers la culture latine est médiatisée par le monde arabe et des traducteurs juifs. Aucune culture n'est homogène, uniforme, autochtone. Ce que l'on appelle la culture humaniste européenne a une double origine hellénique et hébraïque, mais cette double origine nous est transmise dans une langue qui n'est ni le grec ni l'hébreu, mais le latin. J'insiste, parce qu'on comprend bien ce que c'est qu'un processus de métissage. Les textes grecs, Platon et Aristote, sont traduits en latin à partir de l'arabe par des traducteurs dont beaucoup étaient juifs. L'Europe, c'est la tension entre la Grèce et la Bible en tant que deux composantes non exclusives brassées dans un creuset romain et devant beaucoup au monde arabe. Alors, le caractère résolument hétérogène de la culture apparaît sous son plus fort grossissement dans la littérature. Parce que la littérature, c'est la critique des illusions et de la falsification des mythologies de l'identité. Je vais prendre quelques exemples. Kafka, que j'ai déjà évoqué. Le caractère insolite des textes de Kafka vient de son oscillation entre trois langues. Kafka naît dans la langue tchèque. Il devient un écrivain de langue allemande, mais il fait varier l'allemand à partir du yiddish, qu'il rencontre à travers le théâtre populaire qui arrive à Prague. Et à la fin de sa vie, il apprend l'hébreu. Le tchèque, c'est la langue du pays dans lequel il vit, et l'allemand, c'est la langue dans laquelle il écrit. Deuxième exemple, Borges, en Argentine. C'est un écrivain de langue espagnole, éduqué en anglais, et qui parle parfaitement le français et l'allemand. Mais il y a plus encore. Il y a Elias Canetti. Parce que là, on est dans 7 ou 8 langues. C'est un auteur bulgare, de culture judéo-espagnole, qui fréquente une école élémentaire anglaise dans laquelle il apprend le français. Et il devient un écrivain de langue allemande qui n'est que sa cinquième langue, alors qu'il entend parler tous les jours le grec, le russe, l'italien et l'arménien. Alors, je pourrais prendre des exemples qui sont plus, peut-être plus proches de vos préoccupations, dans, non pas la francophonie, il ne faut jamais dire la francophonie, mais les mondes francophones. Les mondes francophones, c'est Édouard Glissant, Raphaël Confiant, Patrick Chamoiseau, Aimé Césaire. Ils font varier la langue française, voyez. Ce sont des écrivains de langue française. Ils font varier la langue française comme Marguerite Duras fait varier le français à partir du vietnamien. Je ne sais pas combien... Depuis quand je peux...
20 minutes.
Oui, ça va aller. Alors, je vous ai parlé un peu d'Amérique latine, d'Europe, et... je voudrais dire quelques mots sur le Japon. J'aime bien parler du Japon. Depuis 6 ans, il se trouve que je suis... c'est pas attiré, c'est malgré moi conduit à travailler au Japon. J'apprends le japonais, je suis étudiant en 3e année. C'est très difficile. J'avais tendance à penser, avant de rencontrer le Japon, que ce qu'on appelle la mondialisation conduisait presque nécessairement les sociétés soit à se dissoudre, soit à se durcir. À se dissoudre dans l'uniformisation, dans l'indifférenciation. Des langues, l'anglais devenant dominant, des cuisines, de tout, hein, des comportements, ou à se durcir dans des revendications identitaires différentialistes que vous connaissez bien, le nationalisme, le chauvinisme, la xénophobie, le communautarisme. Et il est vrai qu'une mondialisation intégrale tend à engendrer une anti-mondialisation intégriste. Hein ? Une mondialisation conçue comme mercantilisation, comme occidentalisation, va provoquer les réactions contraires que vous connaissez, que nous connaissons. Mais nous ne sommes nullement condamnés à une logique de l'alternative, qui est soit la dilution, soit la fragmentation. Les sociétés peuvent aussi inventer une rythmique de l'alternance. Et c'est ce que j'ai découvert au Japon. Au Japon, les individus ne sont pas ou bien japonais ou bien occidentaux. Ils sont totalement japonais, mais ils sont aussi occidentaux. Et ils sont peut-être même plus que nous, puisque le Japon n'a pas seulement absorbé, mais dépassé, notamment d'un point de vue technologique et robotique, ce qui a été appris, ou ce qui est venu de l'extérieur. Ce qui me surprend au Japon, c'est moins la rigidité des rites que la plasticité inouïe des comportements qui consiste à passer d'une figure de soi à une autre. De la sobriété le jour à l'ébriété la nuit. J'évoque bien entendu le saké. De la méditation à l'ostentation et à l'exagération, sans aller néanmoins jusqu'à l'hystérisation, comme en Corée et parfois au Brésil. Les étudiants qui suivent mes cours, alors que je suis professeur à l'université de Tokyo, je dirais qu'ils sont tantôt rock, tantôt zen. Puritains le jour, libertins la nuit. Et les jeunes filles portent tantôt, des mini-jupes beaucoup plus mini que partout ailleurs dans le monde, tantôt des kimonos de soie brodés de fil d'or. Je suis surpris par la possibilité des sociétés à devenir autres que ce qu'elles étaient sans substituer pour autant une culture à une autre. Et c'est ce que je suis en train d'étudier actuellement des deux côtés, à la fois au Brésil et au Japon. Au Brésil, il y a 1 700 000 descendants de Japonais. On en est à la sixième génération. Des descendants de Japonais immigrés au Brésil sont devenus Brésiliens sans pour autant cesser de se considérer comme Japonais. Donc, ce que je veux dire, c'est ceci. Les sociétés mondialisées, elles le sont toutes. Elles provoquent de l'arrachement, du renoncement, de la souffrance. Mais travaillant au Brésil avec ce qu'on appelle la culture Nikkei, la nouvelle culture nippo-brésilienne, travaillant au Brésil avec les afro-brésiliens, je m'aperçois qu'aujourd'hui, dans le trouble et la turbulence, sont en train de s'inventer de nouvelles formes de subjectivité. Des subjectivités que j'appellerais hybrides, métisses, mutantes. Il me faut encore, avant de conclure, élaborer une critique de la notion d'identité. Vous l'avez bien compris, ça sous-tend tout ce que j'ai dit depuis le début. Il y a peu de notions qui connaissent cette inflation, cette prolifération, puisqu'on va utiliser le mot identité chaque fois qu'il est question d'une affirmation religieuse, ethnique, raciale, sociale, nationale, familiale, professionnelle ou de genre. Il y a aujourd'hui une amplitude sémantique telle qu'il faut ajouter quelque chose avant et quelque chose après, quelque chose avant du genre crise, quête, construction, perte, trouble, défense, revendication d'identité. L'identité, Je peux comprendre la... l'utilisation des acteurs sociaux menacés, mais beaucoup moins la rhétorique des chercheurs. L'identité, c'est ce que Austin, vous connaissez tous hein, probablement le livre qui s'appelle, traduit en français, « Quand dire, c'est faire ». C'est un énoncé performatif qui se fait passer pour constatatif. C'est une injonction à la disjonction qui va entraîner une simplification, c'est-à-dire simplification de la personne à une seule de ses composantes, noire ou femme ou ce que vous voulez. Et ça ne marche pas. Plus exactement, ça marche dans deux cas, la notion d'identité. Ça marche dans deux cas. Ça marche dans ce qu'on appelle le contrôle d'identité. Et puis, ça marche dans ce qu'on appelle la photo d'identité. Mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais personne ne se reconnaît dans une photo d'identité, surtout si elles sont faites dans photomaton, parce que c'est la réduction à une pose et on n'aime pas se reconnaître comme étant identique à soi-même. L'identitaire, premièrement, c'est une pensée de l'élémentaire qui va maximaliser ce qui est pur, simple, séparé, qui est posé comme premier, ontologiquement et chronologiquement, alors que le complexe serait seulement du dérivé. Deuxièmement, c'est une pensée de l'identique qui... suppose la fiction du « nous » et du « il », du « moi »,« je » et des autres. Et enfin, troisième point, l'identité, c'est l'identification d'un état qui méconnaît le devenir. Donc on est en présence d'une pensée de l'être, qui a besoin de fondement et d'absolu, et non d'une pensée de l'autre. On est en présence d'une pensée de l'un, et non du multiple. Donc il y a là quelque chose qui peut être falsificateur, parce que ça fait passer des énoncés performatifs pour des énoncés constatatifs qui ont pour effet de simplifier. Nous simplifions toujours lorsque nous utilisons des mots comme l'Orient, l'Occident, la latinité, la germanité, puis alors on conçoit aussi des formes nouvelles, l'ivoirité, vous savez, ça a été utilisé aujourd'hui, l'hindouité. Donc le modèle qui est toujours revendiqué, c'est le modèle de la pureté, c'est le modèle des racines. Et là, à cela, je vais opposer un texte de Freud qui est Moïse et le monothéisme. Alors que dans les idéologies de l'identité, il y a rétraction du devenir sur l'origine, sur l'initial, sur le pur, sur l'authentique, l'autochtone, le même, Moïse et le monothéisme, écrit en 1939, c'est-à-dire vraiment à l'époque de la montée mortifère du nazisme, émet cette thèse. Il dit ceci, Moïse était étranger au peuple hébreu. Moïse était égyptien. C'est-à-dire Freud oppose à l'autofondation, vous voyez, à l'autochtonie, à l'autosuffisance de soi, l'accueil de l'hétérogène, l'hospitalité, l'épreuve de l'autre, l'épreuve de l'étranger comme condition de la civilisation. Bon, je crois que j'ai dit déjà pas mal de trucs, et c'est un petit peu compliqué, hein, c'est un peu compliqué. C'est pas moi, hein, c'est compliqué, c'est la réalité. Donc je vais m'orienter vers une espèce de rassemblement de ce qui a été dit, de récapitulation, d'ouverture. Ce que j'appelle métissage, encore une fois, je ne tiens pas tellement au mot, hein. On peut le remplacer, il ne faut pas le fétichiser. Pour moi, ce n'est pas un totem. Si vous n'en voulez pas, ça ne m'embête pas. Le métissage, c'est le contraire de la plénitude, de l'individu rassasié auquel il ne manque rien. Le métissage, c'est le contraire de l'autosuffisance et de l'autisme. C'est ce qui nous arrache à la reproduction du compact et s'élabore dans l'alternance. À quoi reconnaît-on un processus de métissage ? Et vous avez compris à travers ce que j'ai dit que c'est plutôt rare, c'est plutôt l'exception, et que la règle est plutôt l'inverse, notamment en politique, parce que le métissage, ça prend surtout dans deux domaines, qui est la musique et la cuisine. Et je vais prendre sans doute, oui, pour finir, quelques exemples dans la musique. On reconnaît un processus de métissage qui a rarement été pensé, mais a été au contraire rejeté, dans un mouvement de vibration, d'oscillation, de tension. Exemple en peinture. Les tableaux de Roscoe, je ne sais pas si vous connaissez ces grands tableaux qui tendent souvent vers les couleurs sombres. Les premières couches de couleurs ne sont pas totalement recouvertes et effacées. Donc il y a dans la perception des toiles de Roscoe un mouvement de ce qui alternativement apparaît et disparaît. Deuxième exemple en musique, c'est le Messie de Handel. Le Messie de Handel est rarement interprété dans sa version originale et intégrale, et il donne lieu à plusieurs arrangements, on dit arrangements, mais qui sont plutôt des dérangements. Or, parmi ces arrangements, il y a ce qu'on appelle la version Mozart du Messie. Le Messie de Handel est devenu une œuvre de Mozart, mais on continue néanmoins à percevoir Handel à travers Mozart. Hein ? Si nous comprenons ça, nous comprenons la complexité de ce que j'essaye de dire. On reste dans la musique. La bossa nova brésilienne, elle est faite d'une oscillation entre le rythme de la samba et le tempo du jazz. Elle n'est pas jazz ou samba, elle n'est pas jazz et samba dans un ensemble homogène, elle est tantôt jazz, elle est tantôt samba. Vous voyez ? C'est une musique métisse. Alors j'ai envie de prendre pour approfondir la compréhension, l'existence de sentiments métis. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce sont des sentiments qui ne sont pas fermes, nets, purs, homogènes, positifs, compacts, complets, consistants. J'adore les adjectifs, vous avez vu ? Prenons des exemples de sentiments non métis. La rage. Vous voyez, ça c'est droit, c'est ferme, c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. La rage, la haine, la colère, la jalousie, la révolte, l'indignation, le fanatisme de la passion, la peur, la joie. Ça c'est clair. Ce qui me paraît, c'est clair, c'est univoque. Ce qui me paraît métisse, c'est la mélancolie. Et je vais prendre l'exemple de la variante lusitanienne de la mélancolie, qui s'appelle la saudade, qui est un sentiment métisse qui ne cesse d'osciller entre la jouissance et la souffrance, la présence et l'absence. C'est un sentiment flottant, hésitant, vacillant, qui se rapproche parfois de la dépression, mais qui peut aussi s'inverser en humour. C'est complexe. La mélancolie, c'est pas la nostalgie. Vous sentez la différence ? La nostalgie, c'est le regret du temps passé, tandis que la mélancolie, c'est le sentiment du temps qui passe. C'est ça qu'il y a d'intéressant. C'est pas le passé. C'est le passage. Or, la culture portugaise, les Portugais, ils aiment beaucoup dire lusitanienne. La culture lusitanienne a vraiment pratiquement créé cette culture à partir du thème de la perte, de la solitude, de l'amour et de son impossible réalisation. C'est un thème obsessionnel. C'est une constante de la culture portugaise, la culture de la saudade, que les Portugais ont transmis aux Brésiliens. Et c'est pratiquement incompréhensible pour les Européens, hormis les Portugais, parce que ce mot y relie ce que nous distinguons, la présence et l'absence, la souffrance et le plaisir. La saudade, c'est la présence du passé dans le présent qui fait tant de bien, qui fait tant de mal et qui consiste simultanément à souffrir du plaisir du passé et à prendre plaisir de la souffrance aujourd'hui. Il n'y a pas... une mélancolie, mais des métissages mélancoliques faits de flux, de reflux, de flexion, d'inflexion. Donc c'est un sentiment flottant, vague, indécis, qui n'arrive pas à se fixer, qui ne vise pas un but, qui manque d'orientation et qui peut s'exprimer de la manière la plus juste par des métaphores marines. Il y a quelque chose qui ne cesse d'osciller à la manière des vagues et qui raconte l'amour de la femme et du marin qui ne revient pas. C'est un sentiment du temps. Si j'insiste sur cet exemple, c'est parce que le métissage s'effectue dans le temps. Le métissage, c'est un processus. Et c'est un sentiment du temps qui appelle un art du temps. Qu'est-ce que c'est par excellence l'art du temps? C'est la musique, et ça a donné le fado, le tango, le blues, le flamenco, la morna, que vous connaissez à travers les chants de Cesara Evora. Alors c'est complexe parce que ce sentiment métisse, la mélancolie, est susceptible de se retourner en son contraire, ce qu'on appelle en psychiatrie la manie, l'exaltation maniaque. Il y a une transformation possible de la mélancolie dans l'humour et l'humour noir. Les gens, vous en connaissez autour de vous, peut-être vous-même qui faites beaucoup d'humour, dissimule bien sûr un fond mélancolique. J'insisterai enfin pour finir avec cet exemple sur le fait que c'est un sentiment qui se crée en particulier dans les milieux populaires des cultures portuaires. La Saudade, à Lisbonne, au bord du Tage, la Saudade et le Fado, le Tango à Buenos Aires, la Rebetika à Athènes, le Blues sur les rives du Mississippi. Je vais prendre encore un dernier exemple, peut-être. C'est l'exemple du... J'aime bien cet exemple. C'est l'exemple du tango argentin. Le tango est métisse, non pas tant par la pluralité de ses origines, andalouse, cubaine, italienne, allemande. Donc on n'est pas déjà en présence d'une danse très, très simple, hein, qui a plusieurs composantes. Mais il est métisse pour une deuxième raison, pour une seconde raison, c'est parce qu'il chante sur un rythme guiré la plainte d'une âme désespérée. Et puis surtout, troisième raison, et c'est le plus important, il est métisse à partir de l'extrême différenciation des pas de l'homme et de la femme. Il ne reproduit pas. Contrairement à la valse. Vous voyez, la valse, c'est complètement idiot. La valse, c'est complètement anti-métisse. La valse, c'est bête. C'est bête. Il n'y a rien de plus bête. C'est la répétition. C'est la répétition. C'est la reproduction. Le tango, c'est l'anti-valse. Le tango est métisse parce qu'il produit à l'infini des multiples figures chorégraphiques. Ce qui est très difficile, je ne sais pas si vous vous êtes essayé un jour. Donc, j'ai presque terminé. Ce que je vais dire pour finir, c'est que il me semble qu'aujourd'hui, entrer en métissage, c'est entrer en résistance. Entrer en résistance à la fois contre l'indifférenciation et l'uniformisation croissante, et contre, à l'inverse, l'exacerbation des particularismes identitaires. Le métissage ouvre une autre forme de lien que ceux d'un universalisme figé, arrêté, qu'on appelle ici républicain, ou bien de la soumission à la communauté. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute.
Bonjour, Monsieur Laplantier. Merci tout d'abord pour cet exposé brillant et pour cet encouragement au travail que nous effectuons pour la plupart dans des écoles. Nous constatons aussi les vertus du métissage raisonnablement approché, tel que vous le décrivez. J'avais cependant une question par rapport aux cultures tziganes et roms. Vous les placez où dans cette description du métissage?
Mais vraiment, j'en sais rien. J'ai pas réponse à tout. Mais ce que je peux vous dire, c'est d'abord qu'il convient d'être vigilant à la catégorisation qui tente à se fixer aujourd'hui sous la désignation Rome. Et c'est à partir du moment où on dit les Roms, comme si ça formait un groupe homogène, qu'on va être amené à s'engager dans un processus d'essentialisation, c'est-à-dire à chercher à définir une identité et à les considérer comme des étrangers. Mais en ce qui concerne la culture rome elle-même, moi, je ne peux pas vous répondre. Par contre, vous voyez, ce que va provoquer le phénomène, c'est sûr que c'est la méfiance des étrangers. C'est ça. La méfiance des étrangers, et en particulier la méfiance des groupes nomades, par rapport à une valeur, à une normativité qui serait le sédentarisme. Et ce que je peux vous dire par rapport à votre question, c'est que le métissage, ça commence à prendre à partir du moment où nous abandonnons la catégorie d'étrangers et nous expérimentons une expérience qui est celle de la singularité. De la singularité de ce que Freud appelait l'étrangeté. L'étrangeté. Alors, ça ne m'intéresse pas trop, en fait.
Si je vous pose cette question, c'est par rapport au Maran et par rapport au processus que vous avez décrit lié au Maran, parce que vous le savez bien, au Brésil, là aussi, les tziganes ont été dans des positions, au Portugal, ont été dans des positions Maran, et de déguisement et d'oscillation.
Oui. Mais je n'en sais rien, parce que vous me dites, je n'en sais rien, et à la limite, ça ne m'intéresse pas. Ce qui est intéressant, c'est la relation, il me semble. C'est la relation qu'on peut avoir avec des populations stigmatisées, exclues, que l'on cherche soit à fixer ou à se débarrasser. Mais la culture marane, la culture rome elle-même, je suis un petit peu approché quand je suis allé en Roumanie, mais pas plus. Donc, oui, je comprends le sens de votre question. De cette marginalité culturelle par rapport à ce que j'ai dit précédemment sur le maranisme, et sans doute l'importance qu'a joué, mais alors je ne sais pas s'il faut dire Rome, plutôt tzigane, vous voyez. Ce qui est intéressant, c'est l'oscillation des désignations, l'importance qu'a joué la culture tzigane dans l'invention du flamenco. Et alors là, vraiment, oui, sans doute retrouve-t-on le métissage, du métissage.
Une question.
Je suis là. Oui, je vois.
Vous nous avez présenté le métissage. Le métissage est conflit et source de tension, de souffrance. Mais est-il une ambition? Est-il un épanouissement et tout simplement un but à poursuivre?
Je crois que c'est, si vous voulez, j'ai pris l'exemple où j'ai dit ça a quelque chose à voir avec le bilinguisme, vous voyez, ce processus. De l'apparaître, disparaître, non pas l'un ou l'autre, mais l'un et l'autre. C'est plus riche de parler deux langues que de n'en parler aucune. C'est plus riche de parler trois langues que de parler deux langues. Mais on ne peut pas les parler en même temps. Ou alors il y a deux cas de figure. Il y a Il y a le français, il y a le franglais, le spanglish ou le portugnol, comme moi, quand je vais dans les pays d'Amérique latine, non Brésil. Mais je suis en train de parler français et l'un d'entre vous va me répondre en espagnol et un troisième va le traduire en anglais, etc. On ne parle pas deux langues en même temps. Vous voyez, donc dans la traduction, elle est faite d'alternance. Elle n'est pas, il n'y a pas d'équivalent. Elle est une transformation. Alors, je ne sais pas, votre question pour moi, elle appelle aucune réfutation. Bien entendu, dans ce que j'ai dit, il y a un éloge de ces processus, mais qui sont plutôt l'exception. Hein, qui sont plutôt l'exception. Je peux prendre peut-être trois exemples. Ça s'est produit trois fois. Ça s'est produit trois fois en Europe, des processus de métissage. Parce que c'est relativement facile de penser ces processus dans la cuisine, dans la musique, dans la peinture, mais dans la politique, pratiquement jamais. Enfin, vous voyez, pratiquement jamais. Mais il y a trois fois dans l'histoire de l'Europe où le métissage a pris. Je parle comme ça explicitement, vous voyez, ça prend ou ça prend pas. Mais vous ne pouvez, vous pouvez pas dire dans votre travail, notamment dans le travail d'éducation qui est le vôtre, voilà, on va appliquer, on va imposer un processus de transformation métisse. Ce serait la meilleure manière que ça ne marche pas. Alors il y a trois exemples que je vais prendre. Le premier exemple, c'est l'exemple de la Grèce. Et l'exemple d'Athènes, pourquoi il y a du métissage dans la cité athénienne? Ben, c'est par l'apport de ceux qu'on appelait à l'époque les métèques, qui étaient les étrangers. Vous voyez, l'apport du groupe appelé métèque va profondément transformer la société athénienne. Et puis surtout, et là c'est beaucoup plus précis, c'est l'invention de la tragédie grecque. Dans la tragédie grecque, il y a une tension entre Apollon et Dionysos. Et Dionysos, ça c'est vraiment la tragédie grecque, la tension entre Apollon et Dionysos. Et Dionysos, il n'est pas grec, vous voyez? Il est asiatique, c'est un étranger. Et c'est ça, l'hétérogénéité qui va transformer. La tendance au même, à l'identique, à l'identité, etc. Donc le premier exemple, Athènes, est la création de la tragédie grecque. Bon, le métissage a pris à une autre époque et ailleurs, c'est en Espagne. C'est dans la création de la civilisation andalouse. À travers des conflits et des luttes, il y a néanmoins eu des époques où il y a véritablement eu échange et fécondation mutuelle entre l'islam, le christianisme et le judaïsme. À l'intérieur de ces écoles qu'on appelle médrassa, vous voyez, où on parlait plusieurs langues, où les textes étaient traduits. Mais alors, vous voyez, c'est comme ça le métissage. C'est une époque, et puis ensuite, il y a reprise en main de l'autorité et de ce qui est monovalent, monolithique. Et bien, le troisième exemple que je voudrais prendre, c'est ce qui s'est passé à Vienne au tournant du siècle. Vienne, dans les années 1900, devient le lieu d'une création intense, devient le foyer d'une transformation artistique, scientifique, philosophique qui n'a pas de précédent. Et on va évoquer des noms en peinture, Egon Schiele, Kokoschka, en musique, Schoenberg, Édouard Mahler, en littérature, Stefan Zweig, à Vienne également, Freud, Wittgenstein. Allez, là, il y a vraiment à Vienne, mais je pourrais prendre aussi l'exemple de Budapest. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, qui est un peu rare, qui est un peu rare dans l'histoire des sociétés, cette transformation par la multiplicité, vous voyez, des influences. Bon, ça s'est passé ailleurs et à d'autres époques. Ça s'est passé au Brésil, à São Paulo, dans ce qu'on appelle le mouvement anthropophagique, qui est à la fois littéraire, musical, pictural, etc. Où il y a plusieurs influences qui sont recomposées, qui vont sortir la société des mythologies de l'identitaire. Donc vous voyez, c'est pas la peine de me demander comment dire, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Bien entendu, c'est implicite à travers tout ce que j'ai dit. Je pense que c'est un processus rare, fragile, qui est sans cesse menacé et qui est toujours à reprendre, parce que nous préférons toujours la fixation dans l'identité que le risque de la multiplicité.
Merci. Pensez-vous que la demande institutionnelle peut favoriser le métissage tel que vous l'entendez ? Je pense notamment à un rapport qui a été commandé sous Chevènement, vous l'avez cité tout à l'heure, à Jacques Berck, dans les années 80, qui s'intitule « Les enfants de l'immigration à l'école de la République ». Est-ce que vous pensez que le politique peut influencer fortement ou puissamment sur le métissage et emmener la société vers une société plus métissée par le biais des acteurs sociaux? Merci.
Mais je pense que le politique peut faciliter, mais elle ne peut pas provoquer. Ça prend ou ça prend pas. Et ça prend ou ça prend pas à notre insu. Hein? C'est pourquoi il ne peut pas y avoir une politique qui se qualifierait de métisse. Il y a quelque chose qui agit largement à notre insu et qui ne peut pas être totalement programmé, qui ne peut pas être totalement décidé. Mais bien entendu que l'éducation peut y contribuer.
Bonjour et merci. Je voulais vous poser la question... c'est au moment où vous avez évoqué la culture beurre que vous avez dit que, en parlant notamment des enfants qui souvent sont nos élèves, que cette situation qui est la leur, leur permettait peut-être de jouer sur plusieurs registres de la société, sur deux registres. Vous avez beaucoup dit qu'au niveau global, au niveau collectif, le métissage était très, très créateur et très enrichissant. Je voulais savoir si vous pensez la même chose au niveau individuel. Vous avez parlé de tension et de souffrance, mais vous avez à un autre moment utilisé l'adjectif facétieux. Je pense à propos de la double culture brésilienne, si je ne me trompe pas. J'aurais voulu savoir dans quelle mesure, à l'échelle de l'individu, cette oscillation peut être facétieuse, joyeuse, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi, heureuse en quelque sorte.
Oui, oui, bien sûr, mais certainement, hein, vous avez raison, facétieuse, joyeuse, mais aussi parfois douloureuse, parce qu'il y a du conflit. Alors, c'est pas... ce que vous avez évoqué au début de votre question, c'est pas... Ce qui me semble important, c'est qu'on peut vivre autrement que l'alternative, arabe ou français, qu'on peut vivre autrement que dans le syncrétisme, arabo-français de manière indifférenciée, mais ce que j'ai en tête dans ce que j'ai dit, c'est plutôt une rythmique de l'alternance. Une rythmique de l'alternance, vous voyez ? Tantôt, mais pas en même temps. Donc bien entendu, la double culture est possible. Et évidemment, à travers ce que j'ai dit, il y a toujours la valeur du bilinguisme. du bilinguisme, du trilinguisme, etc., de ce qui nous décentre par rapport à ce qui est monovalent.
Bien, ben nous, merci beaucoup pour cette intervention.